RFI Matin continue, 6h44 en temps universel et dans un quart d'heure à la une du journal, bien sûr. L'escalade entre Israël et l'Iran qui continue, on en parlera avec Nicolas Falaise et avec Michel Paul en direct de Jérusalem. Mais d'abord, c'est un secteur devenu crucial dans l'économie mondiale. Nous partons en Corée du Sud ce matin, l'un des pays sur le podium des exportateurs de semi-conducteurs. Ces composants électroniques de plus en plus demandés, ils sont désormais le principal poste d'exportation de l'industrie sud-coréenne. Et c'est pour préserver cette place que la Corée du Sud met les bouchées doubles. 17,5 milliards d'euros investis l'an dernier pour soutenir la filière et une loi spéciale à l'étude pour allonger la semaine de travail dans les usines qui les fabriquent. Une priorité économique qui cache aujourd'hui le coût social de la production de semi-conducteurs, la souffrance des travailleurs et surtout leur manque de protection alors qu'ils sont exposés à des produits chimiques dangereux et au risque de cancer. Celio Fioretti.
Après 20 ans de carrière passée à Samsung, Jong Yong-suk porte un constat amer sur son travail qui l'a poussé à démissionner en 2015.
J'étais fière de travailler pour Samsung, mais cela a failli me tuer. Quand je suis arrivée dans l'entreprise après le lycée, je n'avais pas eu de formation sur les dangers de ce métier. On ne savait pas les risques, on allait dans l'inconnu.
Sur les chaînes de production des semi-conducteurs, elle et ses collègues ont été exposés pendant des années à des produits chimiques dangereux, entraînant notamment des cancers, des maladies dont souffrent encore Jong Yong-suk et ses anciens collègues.
J'ai fait deux fausses couches, eu des problèmes d'infertilité et deux tumeurs, l'une à l'utérus et l'autre à la tête. Je suis encore aujourd'hui sous traitement. Autour de moi aussi, les gens tombaient malades. Mes deux supérieurs, l'un a eu un cancer de la peau, l'autre un cancer du poumon. Ils en sont morts. J'ai aussi vu une collègue accoucher d'un enfant mort-né. Une chef d'équipe est décédée très vite, sans que l'on sache de quelle maladie il s'agissait. Avec le recul, on pense que c'était peut-être une leucémie. À l'époque, on ne connaissait pas cette maladie. Elle n'avait que 24 ou 25 ans, ça m'a choqué.
Plusieurs centaines de produits chimiques différents sont utilisés dans les usines de semi-conducteurs de n'importe quelle entreprise du secteur. Seulement en Corée du Sud, la législation autorise les sociétés à garder secrète la liste exacte des composants utilisés. Une mesure pour se protéger de la concurrence, mais qui ne permet donc pas de demander des mesures de protection adéquates. Lee Jong-ran de l'association Sharps, qui regroupe d'anciens employés du secteur, témoigne de la difficulté à mieux protéger les ouvriers.
Samsung, par exemple, après avoir été condamné en justice en 2018, s'est excusé pour le manque de protection et a promis des améliorations. Mais dans le même temps, l'entreprise a décidé de sous-traiter une grande partie de sa production à des sociétés externes qui sont moins regardantes et qui ne peuvent pas tenir Samsung responsable. Donc le problème s'est déplacé.
Aujourd'hui encore, les travailleurs des usines de semi-conducteurs ont 2 à 3 fois plus de chances de développer un cancer à cause des produits chimiques. Les syndicats et la communauté scientifique appellent à lever le secret industriel autour de ces composants de fabrication. Celio Fioretti, Séoul, RFI.
Reportage en Corée du Sud à retrouver sur RFI.fr et notre application Pure Radio.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohem.
Et l'info ce matin, c'est la guerre qui s'installe entre Israël et l'Iran 48 heures après les premières attaques massives d'Israël contre des sites nucléaires et militaires iraniens. Téhéran poursuit sa riposte. Des salves de missiles tirées hier soir vers Israël, au moins 10 morts, 7 disparus et plus de 130 blessés. Israël, de son côté, continue de bombarder l'Iran, des sites nucléaires encore, mais aussi le ministère de la Défense à Téhéran et des installations pétrolières et gazières. Cette nuit, la raffinerie de la capitale était en feu. Benjamin Netanyahou dit vouloir frapper tous les sites et toutes les cibles du régime iranien. Téhéran, de son côté, s'en prend à l'AIEA qui l'accuse de son silence. L'Agence internationale de l'énergie atomique avec qui l'Iran annonce qu'il ne coopérera plus comme auparavant. Et puis Donald Trump menace Téhéran en cas de frappe sur les intérêts américains dans la région. L'armée répliquera avec toute sa force, prévient le président américain qui estime qu'un accord peut être facilement conclu. entre Israël et l'Iran pour mettre fin à ce conflit. Aux États-Unis, un samedi de défilé militaire sous haute tension à Washington, pendant que les opposants au président Trump manifestaient dans de multiples villes, un blessé grave à Salt Lake City dans l'Utah. Dans ce contexte politique tendu, une élue démocrate a été assassinée chez elle avec son mari par un tireur qui est en fuite. Une liste de 70 noms d'élus à abattre a été retrouvée dans sa voiture. Et puis l'actualité en France est le retrait de la Légion d'honneur de Nicolas Sarkozy, décision attendue suite à la condamnation définitive de l'ancien président en décembre dernier dans une affaire de trafic d'influence. C'est la première fois qu'une telle décision est prise pour un ancien chef d'État depuis Philippe Pétain en 1945.
RFI à Curepipe, 93.2 FM.
Et elle nous présente ses têtes d'affiche chaque dimanche sur notre antenne. Denise Époté de TV5 Monde et sur RFI avec Nicolas Brousse.
Bonjour Denise Époté.
Bonjour Nicolas Brousse.
Vos deux têtes d'affiche cette semaine sont originaires de l'île Maurice. Thibaut Val a travaillé dans les assurances et dans l'hôtellerie avant de se lancer dans l'entrepreneuriat à la faveur de la crise sanitaire. Son application Alaprane est destinée à faire le pont entre le créole et l'anglais afin de faciliter l'apprentissage.
En créole, Alaprane signifie « va apprendre » et pour Thibaut Val, le choix du nom n'est pas fortuit car il souligne la volonté de rendre l'apprentissage accessible et motivant pour tous. Pendant la crise sanitaire, faute d'outils numériques adaptés à leur réalité, de nombreux élèves ont du mal à réviser leurs cours. Et cela a mis en lumière les problèmes structurels du système éducatif mauricien. Hérité de la colonisation, il privilégie l'anglais alors qu'au quotidien, la majorité des élèves ne parlent pas cette langue, mais le créole. Bien que l'éducation soit gratuite à Maurice, de nombreux élèves sont laissés de côté car la langue d'enseignement n'est pas leur langue maternelle. Et les chiffres sont alarmants. Sur 10 élèves qui débutent leur parcours scolaire, seuls 2 terminent le cycle secondaire. L'UNESCO souligne par ailleurs que l'éducation dans la langue maternelle favorise la compréhension et l'engagement tout en renforçant l'identité culturelle des apprenants. Le choix d'un contenu bilingue, bien que coûteux à produire, est une nécessité pour éviter que le système éducatif n'accentue les inégalités socio-économiques. Alaprane propose des contenus pédagogiques en créole et en anglais, des vidéos interactives ainsi que des quiz d'évaluation. Rendre l'éducation plus inclusive en prenant en compte le contexte culturel et linguistique des apprenants, c'est l'objectif que s'est fixé Thibaut Val, qui travaille sur une adaptation de l'application pour d'autres pays africains confrontés aux mêmes défis. Lors de la cérémonie des 500 talents mauricieux, Alaprane a remporté le prix d'excellence.
Denise, votre seconde tête d'affiche est donc également originaire de l'île Maurice. Kaushik Ratod, après plusieurs années dans le secteur du tourisme, a lui lancé Yugo, une application pour structurer et moderniser le secteur du transport.
Offrir un service fiable, sécurisé et accessible via une application, tout en professionnalisant le secteur du taxi, qui jusque-là était informel, c'est ce qui a poussé Kaushik Ratod à lancer Yugo. Avant le lancement de l'application, en 2018, il n'existait aucune plateforme de recherche de véhicules. Il était également impossible de commander un véhicule pour un usage immédiat. L'application permet de commander ou de réserver en temps réel un taxi. Une estimation tarifaire est proposée au client qui suit en direct l'arrivée du chauffeur. Le paiement se fait en espèces ou via paiement électronique. La flotte est uniquement composée de taxis légalement enregistrés, ce qui garantit la qualité et la fiabilité du service proposé. L'application est disponible sur l'ensemble de l'île. Elle est utilisée par les nationaux et les touristes, soit 40 000 utilisateurs en dehors des pics de saison touristique. Dans un secteur du transport digital en pleine évolution, Yugo a bénéficié du soutien du fonds d'investissement Afrilabs.
Denise Époté avec Nicolas Brousse.
RFI à Moroni, 103 FM.
C'est un sujet que des pêcheurs du continent sont venus porter cette semaine à Nice, dans le sud de la France, en marge de la conférence des Nations Unies sur l'océan. Dans notre reportage Afrique, nous partons aux Comores ce matin, au chevet d'un secteur en difficulté, la pêche artisanale, qui reste une activité essentielle pour des milliers de Comoriens, mais face à la raréfaction des poissons, aux restrictions locales et à la concurrence des grands chalutiers, les pêcheurs se battent de plus en plus pour leur survie. Aujourd'hui, certains évoquent un métier plus dur, d'autres tentent de s'adapter. Reportage à Moroni, au café du port où le poisson, autrefois abondant, est devenu une denrée fragile. Abdallah Mzembaba.
Près du port de Moroni, entre deux parties de dominos, les pêcheurs discutent des métiers qu'ils aiment, mais qui ne les fait plus vraiment vivre, comme dans le Keto, pêcheur depuis 1999.
Avant, il y avait moins de bateaux, plus d'opportunités, donc plus de poissons. Depuis 2010, les choses ont changé. Il y a de gros bateaux de pêche étrangers qui opèrent dans nos eaux et prélèvent énormément de poissons. Parfois, ils nous menacent avec des armes. On est obligé de fuir. Parfois, ils nous donnent des poissons.
Ces dernières semaines, certains notent une amélioration. Les grands navires se font plus rares et les prises augmentent, comme dans le Keto.
Dieu merci, les poissons sont revenus. Vous le voyez bien sur les prix. La bonite est entre 2 euros et 2,50 euros.
Mais il y a d'autres batailles pour les pêcheurs. Ibrahim Hassani vend son poisson près du café du port, un point de vente situé en bordure de route. Les clients y stationnent souvent leurs véhicules, ce qui encombre la circulation et agace la mairie.
On nous empêche de vendre ici. C'est une décision de la mairie. J'ai 750 000 francs de poissons bloqués au congélateur que je n'arrive pas à écouler.
Il regrette surtout d'avoir dû renoncer à la fraîcheur, son meilleur argument face aux clients.
Ici, il n'y a que du poisson frais. C'est maintenant que la situation a changé, que nous avons des poissons congelés. Nous n'arrivons pas à les écouler, mais en période normale, nous n'avons pas de poissons congelés.
La pression n'est pas que locale. Les pêcheurs dénoncent aussi un manque de soutien face aux enjeux géopolitiques de la mer. Andim Abdallah, pêcheur depuis 2006.
Nous avons une vie difficile. On souffre autant en allant à la pêche qu'en en revenant. On souffre quand on veut vendre. Et certaines autorités viennent ici, pas pour nous aider, mais pour nous nuire et nous compliquer encore plus la vie.
Rester à flot, malgré les vagues, les décisions politiques et les poissons qui se font rares. Pour ces pêcheurs, l'espoir, lui, est toujours bien ancré. Abdelham Zembaba Moroni, RFI.
Et à Moroni, il est bientôt 10h.
RFI Matin.
Bientôt 7h en temps universel, avant le journal dans 5 minutes, notre parenthèse du dimanche. À la rencontre des acteurs de la mode 100% création et aujourd'hui une figure incontournable, le grand couturier haïtien Elmer Joseph, passé par des maisons prestigieuses comme Mugler, Dior ou Yves Saint Laurent. Il continue de se distinguer aujourd'hui par son travail bien sûr, mais aussi par sa volonté de transmettre aux jeunes créateurs. Alomé Maria Afonso l'a rencontré en marge du festival FIMO 228.
La mode me coûte puisque ça me rapporte de l'argent. Dès que j'ai une facture qui rentre, je l'investis tout de suite. Je travaille tout le temps dans l'atelier. Les broderies et la machine, mais sans compter dans ma tête, c'est tout le temps.
Elmer Joseph, couturier et fondateur de la marque Elmer.
J'ai que moi, j'ai Elmer et Joseph, c'est tout. Il y en a un qui dépense et puis l'autre qui travaille, mais les deux s'entendent très bien.
Né dans la petite ville des Goyavines en Haïti, Elmer Joseph grandit dans une famille nombreuse, entourée de traditions et de valeurs fortes. Très tôt, il se passionne pour la couture. Il aide sa mère et fabrique ses tenues dès l'âge de 5 ans. Elmer Joseph rêve de Paris, le berceau de la haute couture. Il apprend, crée et s'inspire des plus grands, Dior, Rochas, Yves Saint Laurent et tant d'autres. Elmer Joseph est diplômé d'une quinzaine d'écoles de mode et encore aujourd'hui, cet éternel apprenant continue à se former.
J'ai fait pas mal de formations parce que j'étais assez curieux pour tout. Et arrivé à Paris, j'ai fait S-Mode. Après, j'ai fait Christian Chauveau pour le maquillage, pour le cinéma. J'ai pu rester à Paris. Je suis entré dans un atelier de haute couture. J'ai touché un peu à tout. Après, j'ai fait le sage en broderie parce que j'avais fait de la broderie à la Jamaïque. Après, j'ai fait le design textile, le chapeau. La chambre syndicale et de la couture parisienne à Moulage pour pouvoir enseigner. Le mois dernier, j'ai fait de la soudure parce que maintenant, il y a beaucoup de carapaces dans la mode. Dès qu'il y a des séminaires, je les prends, même si c'est loin.
Elmer Joseph partage son temps entre la mode et l'enseignement. Il est le directeur fondateur d'une école de mode et de métiers d'art en Haïti. Il offre ainsi à des jeunes talents une chance de s'insérer dans un secteur difficile. Il souhaite préserver la qualité, la rigueur et la beauté du travail artisanal tout en s'adaptant aux contraintes du pays.
C'est très gratifiant parce qu'ils apprennent vite. La première semaine, tout le monde doit faire de la broderie. Dans les 12 points de base de broderie, c'est tout ce qu'on va utiliser pour les finitions, pour réaliser des choses. Les premiers trimestres, on fait les accessoires de mode, chapeaux, sacs. Dans une semaine, je fais les 6 jupes portefeuille, jupes boîte. On n'a pas le droit actuellement en Haïti de prendre 3 ans de quelqu'un pour le former en mode parce qu'il faut qu'il trouve quelqu'un qui paye. Il y en a qui ne peuvent pas payer. Il y a le transport, l'insécurité. Les meilleurs, je leur donne un salaire. Il y en a qui sont intelligents, honnêtes, respectueux. Ils ont tout, mais ils ne peuvent rien faire. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose, mais je continue à le faire.
Pour découvrir l'univers d'Elmer Joseph, retrouvez la version longue en podcast sur RFI.fr, chronique 100% création, et sur RFI Pure Radio.
Maria Afonso pour 100% création. Dans une minute, le journal. Et dans un peu plus d'un quart d'heure, notre invité, l'ambassadeur iranien Mohamed Amin Nejad. A tout de suite.
Vous êtes étudiant, vous aimez la littérature et l'écriture ? L'Agence universitaire de la francophonie et RFI organise la 7e édition du prix RFI AEF des jeunes écritures. Rédigez une nouvelle commençant par « Je ne peux pas raconter d'où je viens, j'ai tout oublié ». Extrait de la pièce de théâtre « Passeport » d'Alexis Michalik. Et imaginez la suite avant le 30 juin. Plus d'informations sur auf.org.
Tout à l'heure sur RFI, idée Pierre-Édouard Deldic.
Avec la revue Esprit qui s'intéresse ce mois-ci à la Syrie notamment, avec l'anthropologue Véronique Naoumgrap de retour de Damas qui revit après la chute de Bachar el-Assad.
C'était un tel événement et je pense que c'est une des choses les plus extraordinaires qu'on puisse vivre dans sa vie. Une tyrannie sanguinaire féroce et le tyran qui tombe un jour.
Idée proposée par Pierre-Édouard Deldic, tous les dimanches à 19h10 TU sur RFI.